Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Désillusion totale. Les léopards de la République démocratique du Congo n'ont pas pu obtenir leur ticket pour le Qatar 2022. Ils ont été éliminés hier par les Lions de l'Atlas du Maroc sur un score de 4 buts à 1. Ainsi donc, ce sont les équipes du Maroc, Sénégal, Ghana, Tunisie et Cameroun qui forment les tickets africains à la Coupe du Monde de novembre prochain. Les FARDC contrôlent la zone frontalière de Rwanguba après y avoir chassé les 1-23 qui se seraient repliés à Djomba et Tchanjou. Hier, dans la soirée, un calme apparent régnait dans la zone. Cependant, les FARDC accusent les M23 d'avoir abattu un hélicoptère de la MONUSCO, chose que réfutent les M23. L'armée congolaise fait face aux attaques du M23 dans le Nord Kivu et face à cette situation, la MONUSCO apporte son soutien aux militaires congolais. D'après le général Benoît Chavana, la mission onusienne accorde une grande importance à la protection des civils. Il est notre invité dans cette édition. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Adieu Qatar 2022 pour les léopards de la RDC. Ils ont été battus et éliminés en même temps hier à Casablanca sur un score de 4 buts à 1 par les Lions de l'Atlas du Maroc. Le Maroc, le Sénégal, le Ghana, la Tunisie et le Cameroun forment donc le ticket africain au Mondial Qatar 2022 qui se jouera au mois de novembre et décembre prochains. Au Nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru, un calme apparent s'est observé dans la soirée d'hier mardi dans la zone des affrontements qui oppose depuis lundi les FARDC aux rebelles du M23. Des sources de la société civile à Bunagana confirmaient que les FARDC contrôlent à l'heure qu'il est la zone frontalière. Les M23 ont été chassés de Rwanguba et se seraient repliés à Djomba et Tchanzu. De plus, si Famagourou, les FARDC accusent les M23 d'avoir abattu un des deux hélicoptères de la MONUSCO en pleine mission de reconnaissance dans la zone.
Dans un communiqué officiel rendu public mardi soir, le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, le général Sylvain Kenge, affirme qu'au-delà des dégâts causés lundi 28 mars par les M23 à Tchanzu, Runyonyi, Ndiza, Tchengerero, les M23 viennent d'abattre dans la zone qu'ils contrôlent l'un des hélicoptères de la MONUSCO avec à son bord 8 casques bleus, membres d'équipage et d'observation. Les FARDC, poursuit le communiqué, sont à pied d'œuvre pour trouver l'appareil et les potentiels survivants. Pour sa part, la MONUSCO, à travers son compte Twitter, a indiqué avoir perdu le contact avec un de ses hélicoptères en mission de reconnaissance dans la zone de Tchanzu. Pour le moment, les causes de cette disparition ne sont pas connues. Une enquête est ouverte sur les circonstances de ces drames. Par ailleurs, la société civile de Bunagana affirme que les affrontements de ces mardis ont fait au moins 4 morts côté M23 et 2 FARDC. 10 autres rebelles du M23 auraient été capturés côté ougandais alors qu'ils tentaient de fuir après avoir été chassés du côté congolais. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Dans un communiqué rendu public hier mardi dans la soirée, le M23 rend plutôt les FARDC responsables de l'attaque de l'hélicoptère de la MONUSCO et demande à la mission onusienne de diligenter une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Alors que des affrontements opposent depuis lundi l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, le commandant second des forces de la MONUSCO annonce que la mission onusienne apporte un appui au FARDC. Arrivé hier matin à Beni, le général Benoît Chavana parle notamment d'un partage d'informations entre les deux partenaires. L'officier onusien fait également savoir qu'une base de la MONUSCO dans la zone de combat permet d'accueillir et de convoyer les personnes qui fuient les affrontements vers des secteurs plus sécurisé. Vous suivrez le commandant second dans la deuxième partie puisqu'il est l'invité de cette édition. Bintou Keïta appelle le gouvernement congolais à la mise en œuvre des stratégies globales pour s'attaquer aux causes profondes et structurelles de la détérioration sécuritaire dans l'est du pays. C'est un des messages de la communication de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC hier mardi 29 mars par visioconférence au Conseil de sécurité de l'ONU. Bintou Keïta a informé les 15 membres de l'exécutif onusien que Malgré les opérations militaires menées dans le cadre de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, les pertes civiles et les déplacements des populations ne cessent d'augmenter. D'autres détails de la communication de Bintou Keïta au Conseil de sécurité avec vous, Honoré Missenga Kalala.
Le dernier rapport de la représentante spéciale sur la RD Congo a été présenté devant la même institution en décembre 2021. Depuis lors, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC s'est détériorée en dépit des opérations militaires conjointes FRDC-IPDF contre les ADF, a laissé entendre la chef de la mission onusienne. En plus des représailles sanglantes contre les populations civiles au Nord Kivu et en Ituri, dont les auteurs sont ses forces ainsi que celles de la CODECO, Bintou Keïta a aussi mis en exergue la reprise alarmante ces trois derniers mois des activités du mouvement M23 au Nord Kivu. Bilan de cet activisme dans les deux provinces, près de 2300 morts enregistrés au cours du dernier trimestre en raison d'une moyenne mensuelle de 250 civils tués dans chacune d'elles, a précisé la chef de la MONUSCO. Face à cette situation, la représentante spéciale a réitéré au Conseil de sécurité son appel aux autorités congolaises pour mettre en œuvre des stratégies globales prenant en compte notamment des mesures et réformes susceptibles de s'attaquer aux causes profondes et structurelles de ces conflits.
Par ailleurs, la reprise des attaques des rebelles du M23 dans le Rutshuru est une violation de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération entre la RDC et ses voisins. C'est ce que pense Étienne Kambalé, président d'une organisation locale FPJAD, membre de la thématique Bonne gouvernance de la société civile. Pour cet acteur, le M23 était déjà défait militairement depuis 2013 et mué en partie politique. Ces derniers ne possédaient plus la capacité d'attaquer les FRDC sans le soutien du Rwanda. Étienne Kambalé pense que la diplomatie congolaise doit agir parallèlement aux actions militaires. Il est au micro de Sifa Maguru.
Présentement, les troupes du M23 avec leurs alliés rwandais, ils ont avancé sur plusieurs positions. Nous risquons d'avoir une surprise, mais nous risquons de perdre de grandes entités et couper Goma et l'intérieur de Rutshuru. Ce qui est inacceptable. Les Rwandais a violé délibérément cet accord. Ils ont appuyé les M23 pour qu'ils puissent prendre nos entités. La première étape serait que le gouvernement, par le truchement du ministre des Affaires étrangères et notre répondant au niveau des conseils de sécurité, on interpelle directement les Rwandais pour que si les Rwandais ne retirent pas ces troupes et ces éléments qu'ils appuient du M23, la République démocratique du Congo va s'assumer. Les M23 avaient était de fait militairement. Il n'y avait même pas un village qu'ils occupaient. D'où sont-ils venus? C'est qu'ils ont bénéficié du soutien du Rwanda.
Autre nouvelle, des échauffourées ont éclaté hier mardi au centre-ville de Lubumbashi entre les motocyclistes communément appelés Manseba et les éléments de la police. Jean Gandou, les motocyclistes refusent de respecter la décision de l'autorité urbaine qui leur interdit de circuler avec leurs engins au centre-ville.
Appelés à quitter le centre-ville commercial où ils sont accusés notamment d'être à la base des cas d'accidents et autres embouteillages, car ils stationnent leur moto, même en pleine chaussée. Ces motocyclistes se sont donné rendez-vous ce mardi à la mairie de Lubumbashi. Objectif visé, exiger que le maire intérimaire revienne sur sa décision et les laisse travailler sans restriction. Ils ont commencé à caresser les bureaux, cassant de nombreuses vitres et endommageant plusieurs véhicules. Les éléments de la police sont intervenus pour les disperser. Face à la persistance des jets de pierre, ces derniers ont fait usage des gaz lacrymogènes. Quelques manifestants ont été arrêtés. Pour les conseillers politiques de l'autorité urbaine, il est inadmissible que les motocyclistes puissent se comporter de la sorte, après avoir été plusieurs fois sensibilisés. Pour Victor Balibois, les motocyclistes doivent se soumettre et exercer leurs activités en dehors du centre-ville de Lubumbashi, en respectant notamment les périmètres leur tracés par la mairie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas traverser les avenues Likasi, Lumumba, Kambov, Adoula et Kabalo. Nous venons d'apprendre que le maire intérimaire de Lubumbashi vient de suspendre jusqu'à nouvel ordre les deux associations de motocyclistes qui sont opérationnels dans la capitale du cuivre. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Les pays membres de la SADC doivent valoriser leurs produits miniers, une démarche qui peut contribuer au développement social et économique escompté. Ils doivent pour cela accélérer la mise en œuvre de leur politique minière commune. C'est l'essentiel d'un colloque de deux jours qui commence ce mercredi 30 mars à Sandton, à Johannesburg. Une initiative de l'ONG Southern Africa Resource Watch et ses partenaires. Les travaux vont durer deux jours. Quels sont les enjeux pour la RDC? Explication de Cynthia Bachizi Nabizana.
Eh bien, les enjeux sont à la hauteur du potentiel minier du pays. Il faut savoir que le plan stratégique du secteur de mines congolais repose sur 5 piliers, dont notamment le développement d'une industrie minière compétitive. D'ailleurs, le code minier de 2018 interdit l'exportation des minerais à l'état brut. Conscient que les pays qui tirent le plus profit de l'exploitation minière sont ceux qui ont réussi le traitement et la transformation des minerais localement. Par exemple, au-delà d'exporter la cathode de cuivre, la RDC doit songer maintenant à produire des câbles électrique. C'est en cela que partager une politique minière commune au sein de la SADC offre de belles perspectives. Ayant beaucoup de réserves de diamants, la RDC peut s'inspirer du Botswana. Ce pays aujourd'hui n'exporte aucun diamant à l'état brut. Il faut aussi savoir que le Madagascar a un institut de gémologie de réputation mondiale et donc l'exemple malgache dont la connaissance des pierres de couleur peut être aussi édifiant. Mais il faut pour cela qu'il y ait une réelle volonté politique et disponibiliser beaucoup de moyens, insistent des experts avertis. De Johannesburg, Cynthia Bachizi, Radio Okapi.
On revient ici à Kinshasa. 9 enfants ont été opérés à cœur ouvert avec succès à la clinique Ngalema. C'est à la faveur de la campagne Opération à cœur ouvert organisée par le gouvernement du 21 au 28 mars et menée conjointement par une équipe de médecins belges et de médecins congolais de la clinique de Ngalema. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'est rendu sur place pour constater l'aboutissement de cette campagne. Jean-Pierre Lali Coco.
8 jours ont suffi pour redonner l'espoir de vie à 9 enfants, cardiopathie et la joie à leurs parents. 8 jours pendant lesquels ces enfants ont été opérés à cœur ouvert avec succès. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, représentant le gouvernement, remercie les 2 équipes de spécialistes.
J'encourage fortement l'équipe médicale, la chaîne de l'esprit, venue de la Belgique, accompagnée par les médecins, l'équipe de la clinique Ngalema, pour ce qui a été réalisé, le formidable. Je tiens aussi à féliciter les enfants, parce qu'ils ont tenu bon pour passer cette épreuve difficile. Les parents également, pour l'accompagnement dans ce processus qui a commencé depuis longtemps, mais qui maintenant a porté des fruits.
Un des parents exprime toute sa reconnaissance.
On a traversé des moments très difficiles avec ces enfants qui tombaient malades à tout moment, à chaque fois. Aujourd'hui, vous ne savez pas la joie. Alors, on ne peut que dire merci à Dieu qui a touché votre cœur. Merci au gouvernement qui, à travers cet acte, nous lui serons toujours reconnaissants.
Sur 10 des cas sélectionnés, 9 ont été opérés à Kinshasa et les autres le seront à Bruxelles en Belgique. C'est pour la première fois que l'opération cardiaque et pédiatrique à cœur ouvert est réalisée non seulement en RDC, mais aussi en Afrique centrale.
Et puis, 2e livraison de notre série de reportages sur l'université de Kinshasa et le secteur de l'enseignement supérieur en général, débuté hier mardi matin. Les étudiants de certaines facultés dans les promotions de recrutement suivent des cours dans des conditions inhumaines à la suite de surpeuplement de l'université de Kinshasa. En attendant que le gouvernement apporte des solutions durables face à ce problème, le comité de gestion de l'UNIKIN a amorcé des travaux de construction des nouveaux auditoires pour prévenir le pire. Michel Kifindangoy.
Construit pour moins de 100 étudiants, certains auditoires accueillent entre 500 et 2000 étudiants. C'est le cas de G1 Droit où les étudiants s'entassent comme des sardines pour suivre les cours. Témoignage.
Les auditoires sont trop petits. Ils sont comme des sardines dans une seule boîte. Il n'y a pas de climatiseur. Il fait vraiment très très chaud.
Les conditions sont vraiment presque inhumaines. Surtout en G1. Si vous portez en économie comme en droit, c'est presque la même chose qui se répète chaque année.
Conscient de la délicatesse du problème, les recteurs de l'UNIKIN affirme avoir pris des dispositions, mais pas suffisantes. Professeur Jean-Marie Kayembe.
Cet argent de ligne dégagé pour les efforts de construction nous permet en ce moment d'ériger un édifice qui abritera au moins 3 auditoires et quelques bureaux. L'auditoire Laurent-Désiré Kabila constitue un danger permanent. Nous avons commencé la réhabilitation de ce bâtiment.
De leur côté, les professeurs déplorent les conditions de travail difficiles. L'UNIKIN compte à ce jour plus de 1000 professeurs, dont la majorité avance vers l'âge de la retraite, souligne le président de la PUKIN qui invite donc le gouvernement à prendre ses responsabilités afin d'améliorer les conditions d'études et de travail à l'UNIKIN.
Actualité internationale.
La bataille en vue de la présidentielle accélérée au Kenya. La campagne s'ouvre officiellement le 29 mai prochain. Mais depuis plusieurs semaines déjà, les meetings se multiplient aux quatre coins du pays. Une région canalise l'attention des principaux candidats et de leur soutien, le Mont Kenya. Le sortant Uhuru Kenyatta, dont c'est le fief, s'active pour tenter d'y imposer son dauphin Raila Odinga et contrer la percée de William Ruto dans cette région clé. Elle représente un tiers des votants et fut le berceau de trois des quatre présidents qu'a connu le Kenya.
L'invité.
Des violents combats opposent depuis lundi dernier l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. La force de la MONUSCO qui appuie les FARDC apporte son soutien aux militaires congolais. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal le général Benoît Chavana, commandant second de la MONUSCO. Il est notre invité donc. L'officier onusien souligne que la force de la MONUSCO accorde une grande importance à la protection des civils dans cette zone de combat où on enregistre des déplacements des populations. Il est interrogé par Joël Bofengo. Suivez.
Bonjour mon général.
Bonjour.
Une question d'actualité pour commencer. Des violents combats opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 au Nord Kivu. Quelle est la situation actuelle sur place?
Alors la situation est encore relativement confuse, comme toujours quand il y a des affrontements, puisqu'il est difficile de préciser les positions des uns et des autres. Et pourtant, nous commençons à avoir une vision assez claire sur place, ce qui nous permet de remplir notre mission première, qui est celle de la protection des civils.
Justement, parlant de cette mission, la MONUSCO est un partenaire de l'armée congolaise. Est-ce que la force onusienne est engagée au combat aux côtés des FARDC?
Alors, la force de l'ONU n'est pas engagée directement au combat par rapport au M23, puisque c'est évidemment à cet adversaire que vous faites allusion, mais et c'est dans le cadre de son mandat, elle agit en soutien des forces de sécurité congolaises et donc des FARDC. Donc, si vous voulez, il y a deux enjeux principaux. Le premier, c'est bien sûr la protection des civils qui est le cœur de notre mission. Et pour permettre des bonnes actions en termes de protection des civils, c'est-à-dire accueil, escorte, protection, eh bien, il est absolument nécessaire de renforcer notre niveau de coordination avec les FARDC et c'est ce à quoi nous nous employons tous les jours, en particulier dans cette zone qui est une zone très particulière, vous le savez, au pied du Mont Sabino, dans la zone du Mikeno, où nous sommes présents. Nous sommes présents sur plusieurs bases et pour ce qui est de la zone des affrontements actuels, nous sommes présents sur une base importante au sud-ouest de Bunagana, précisément juste au sud de la route nationale 28 et cette base, elle est présente, elle est un petit peu au cœur des actions actuellement, sans être directement en affrontement avec le M23. Mais cette présence nous permet d'une part d'accueillir des populations civiles qui évidemment sont très déroutées. On a observé des mouvements de populations civiles qui craignent évidemment pour leur sécurité. Nous avons déjà hier accueilli plusieurs groupes de personnes et convoyé plusieurs groupes de personnes vers des zones sûres. Et nous continuerons à le faire, bien entendu. Et en même temps, nous apportons notre soutien au FARDC en renforçant notre niveau de coordination. Et enfin, les forces de la MONUSCO sont prêtes et sont en mesure de renforcer encore leur dispositif.
Pour parler plus concrètement, quel type d'appui apportez-vous à l'armée congolaise?
Alors, les appuis, ils sont de différents ordres. D'abord, un partage d'informations. On peut appeler ça le renseignement, on peut appeler ça l'information. Le partage d'informations est essentiel parce qu'il faut avoir une vision claire et bien partagée de la situation. Ensuite, nous apportons un appui logistique constant depuis longtemps déjà, en apportant des moyens de transport, des moyens d'évacuation sanitaire. Enfin, selon les cas et selon les secteurs, nous planifions ensemble, avec des objectifs communs, des opérations à caractère plus offensif.
L'armée congolaise accuse l'armée rwandaise d'appuyer le M23. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet?
Alors, c'est difficile aujourd'hui de vous donner des informations. D'abord parce que on n'a pas une vision complète et parfaitement actualisée de la situation. Et c'est bien normal puisqu'il y a des imbrications et puis parce qu'il y a des, il y a comme toujours dans ces cas-là quelques zones d'ombre. Ensuite, il peut y avoir des déclarations parfois intempestives et il faut être prudent quant à la manipulation d'informations de manière à ne pas laisser croire ou à ne pas laisser se répandre des rumeurs qui provoqueraient des mouvements de panique ou de crainte excessifs.
Vous voulez d'arriver à Beni où la MONUSCO est aussi engagée aux côtés de FARDC, mais l'armée congolaise se bat aussi aux côtés de l'armée ougandaise contre ces mêmes groupes armés. Comment coordonnez-vous tout ça?
Alors, je suis arrivé aujourd'hui à Beni où je vais travailler étroitement notamment avec le commandant de la brigade d'intervention, la FAIB. Et comme vous le dites, effectivement, il y a en ce moment une opération conjointe des forces ougandaises UPDF avec les FRDC. Là, c'est pareil, le maître mot, c'est la coordination, c'est-à-dire que nous ne sommes pas engagés directement avec les armées ougandaises. Ce n'est pas la mission de la MONUSCO. La mission de la MONUSCO, je le répète, elle est toujours la même, c'est-à-dire la protection des civils et le soutien aux forces de sécurité de République démocratique du Congo. C'est ce que nous faisons. Nous avons établi un mécanisme tripartite de coordination avec les armées ougandaises toutefois, de manière à partager des informations, à bien établir les limites de nos zones d'action pour éviter tout malentendu et tout incident. Et nous continuons à apporter dans ce cadre le soutien au FRDC en matière de logistique, de transport, d'évacuation également.
Général Chavana, merci beaucoup.
Je vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Dieudonné Nyangassa, coordonnée et supervisée par Pélé Kipela Mondo. Merci de nous avoir suivis.